Nous avions vu que William Carré avait été rejoint donc par deux compagnons qui avaient débarqué plus ou moins clandestinement, qui avaient eu pas mal d'ennuis, finalement qui finissent par le rejoindre, William Ward et Joshua Munchman. Et ces hommes vont travailler 23 ans ensemble. 23 ans, donc, ce trio, ce qu'on appellera le trio de Sarampore, n'est-ce pas, vont donc faire un travail pendant 23 ans extraordinaire. Ils vivent en communauté de biens. Ils ont un toit commun. Ils mangent ensemble. C'est vraiment la vie communautaire totale, donc, des trois familles ici qui composent ce fameux trio. Alors, tous les samedis, ils ont une réunion où, en quelque sorte, c'est une réunion de lumière. Ils essayent d'aplanir les divergences éventuelles qui pourraient intervenir. Et puis, finalement, il y a pour les problèmes matériels une gérance tournante. Ils achètent une imprimerie d'occasion et ils vont commencer à imprimer le Nouveau Testament en Bengali. Et puis, au bout d'un temps, cette imprimerie va devenir aussi commerciale, notamment grâce au fils aîné de William Carré, qui est âgé de 15 ans, et qui va se lancer à fond dans l'imprimerie. Donc, ça permettra aussi d'aider l'œuvre sur le plan financier. Quelques années plus tard, Munchman ouvre une école avec sa femme Hannah, et ensuite un internat pour Blancs, et pour les Bengalis d'ailleurs, qui ont fait payer ceux qui peuvent, notamment les Blancs, n'est-ce pas ? Et ça permet aussi d'avoir des rentrées pour la mission, outre l'imprimerie. William Carré va aussi entreprendre, à la manière de Wesley, beaucoup de réunions en plein air, donc pour appeler les Indiens à la conversion. William Carré se trouve aussi confronté, dans ce pays qu'est l'Inde, avec le fameux système des castes, les problèmes sociaux extrêmement graves, n'est-ce pas, que pose la société indienne, qui non seulement a ce problème des castes, mais aussi les sacrifices d'enfants aux idoles païennes, le fait que quand un homme meurt, sa veuve est brûlée avec lui, n'est-ce pas, même si elle est vivante, enfin en général elle est vivante, et elle l'accompagne dans l'au-delà, n'est-ce pas, et la veuve est brûlée, n'est-ce pas, vive, simplement pour avoir le malheur d'être la femme de ce défunt, c'est tout, quoi. Hein. Alors ce sont des coutumes évidemment horribles, et William Carré ne va pas accepter cela, et non seulement il va intervenir pour mettre fin au système des castes, pour mettre fin aussi au système de sacrifice d'enfants, mais il va intervenir auprès des autorités britanniques, n'est-ce pas, pour qu'elles mettent fin à ces pratiques horribles. Le gouvernement britannique n'est pas du tout pressé de cela, parce qu'il n'a pas tellement envie de modifier l'équilibre social de la société indienne. Et William Carré a beaucoup, beaucoup de mal à faire passer ce message auprès de l'administration britannique. Au bout de quelques... en 1801, il va fonder un collège à Calcutta. Et ce n'est qu'au bout de quelques temps, n'est-ce pas, qu'il parviendra malgré tout à obtenir que le gouvernement britannique empêche le sacrifice d'enfants. Donc, à partir de 1801, le sacrifice d'enfants cesse. Mais par contre, le brûlement des veuves, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de mal à obtenir la fin de cette pratique horrible. Et finalement, au bout de quelques années, il y parviendra quand même. En 1801, donc, il va, dans ce collège qu'il fonde à Calcutta, il va devenir professeur. Il va devenir professeur de ce collège et il va faire venir d'autres professeurs d'Angleterre, tant et si bien que la petite communauté qu'ils ont à Sarampore va bientôt compter 8 familles. Malheureusement, William Carré, qui avait jusqu'ici réussi à lier des contacts cordiaux avec le gouverneur de l'Inde, cela va être mis en question par le fait qu'un nouveau gouverneur arrive en Inde, et celui-là est en quelque sorte aux ordres de la compagnie, la fameuse compagnie des Indes. Et en 1806, le nouveau gouverneur interdit toute forme d'activité missionnaire. Bien entendu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et William Carré passe outre. Et il va y avoir un combat, n'est-ce pas, qui va durer jusqu'en 1813, date à partir de laquelle William Carré obtient des autorités de Londres, du Foreign Office, pas du Colonial Office, pardon, l'autorisation de prêcher partout, malgré l'opposition donc de la société. Il crée donc une société biblique au même moment que se crée la Société biblique de Londres. Il va y avoir collaboration entre les deux sociétés. Le 19e siècle est en effet le temps où les sociétés bibliques vont fleurir, n'est-ce pas, dans le but de diffuser la Bible dans le monde entier, d'abord de la traduire, n'est-ce pas, pour que et ensuite elle puisse être diffusée dans le monde entier. Lui-même a dirigé la traduction de la Bible en 42 langues. Pour un seul homme, évidemment, c'est énorme. Malheureusement, le 12 juin 1812, un drame se produit dans la mission, n'est-ce pas ? La réserve de papier qui est la leur brûle dans l'imprimerie. Et il faut donc, c'est un stock qu'ils ont accumulé pendant des années, c'est une perte énorme, d'abord parce que le papier est rare dans la région, puis deuxièmement parce qu'évidemment, au point de vue financier, pour renouveler ce stock-là, ça demande beaucoup aussi d'investissement. Mais William Carré ne se laisse pas décourager, et en 1813, il va créer 19 écoles. Sa vision missionnaire, en effet, c'est que l'évangélisation doit absolument aller de pair avec l'instruction, l'enseignement. Alors, nous avons vu qu'il avait créé un enseignement secondaire, mais ici, il pense aussi aux écoles primaires. Et l'année suivante, donc en 1814, il crée 45 écoles dans les différents endroits autour de Calcutta. En 1801, il crée un collège d'instruction supérieure, c'est-à-dire une université, si vous voulez, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Qui a considérablement grandi depuis là, c'est pas si bien qu'il a les trois niveaux d'instruction, primaire, secondaire avec le collège de Calcutta, et puis donc le collège d'instruction supérieure qu'il a créé ainsi. Les trois fils de William Carré deviennent prédicateurs à leur tour, et à partir de cette période, alors la mission va connaître un extraordinaire succès. Il va y avoir plusieurs milliers de baptisés qui vont venir à la foi pendant toute cette période-là. C'est l'époque où le grand missionnaire Adoniram Judson, dont nous aurons l'occasion de parler, le rejoint, n'est-ce pas, en route pour la Birmanie. Et là, il vient apprendre, en quelque sorte. Il vient apprendre auprès de William Carré des leçons qui lui sont utiles pour son ministère parmi les Birmans. C'est pas, nous aurons l'occasion de reparler aussi d'Adoniram Judson. En 1815, Fuller, son collaborateur, meurt, n'est-ce pas ? Et William Carré est obligé de faire appel à des nouveaux missionnaires, des jeunes qui arrivent directement de la métropole. Mais c'est souvent ainsi que les choses se passent. Ces jeunes-là n'ont pas la dimension spirituelle ni la trempe des anciens, n'est-ce pas ? Et William Carré est un petit peu déçu. Et notamment, ces jeunes sont un peu contestataires. Ils refusent de se soumettre à William Carré. Et William Carré a pas mal de fil à retordre avec les jeunes missionnaires qui viennent en principe pour le seconder. En 1823, c'est Ward qui meurt à son tour. Et Marshall se rend à Londres pour tenter de régler le problème que pose justement l'arrivée de ces jeunes indisciplinés qui viennent mettre la pagaille plutôt que finalement ils ne sont une aide. Et finalement, en 1827, il est décidé, n'est-ce pas, que les jeunes ne pourront plus travailler dans le cadre de la mission de William Carré. Par conséquent, il y a séparation, n'est-ce pas, entre les anciens, en quelque sorte, l'équipe de William Carré et les jeunes. En 1807, donc, William Carré a perdu sa femme. Et en 1808, il va avoir 70 ans, il se remarie avec une dame qui s'appelle Charlotte Rank. Et puis, elle meurt peu de temps après. Et il va se remarier une troisième fois avec une certaine Grace Hughes. William Carré a toujours eu, n'est-ce pas, la vision de, c'était son slogan, n'est-ce pas, tenter de grandes choses pour Dieu et attendre de la part de Dieu de grandes choses. Et de fait, c'est ce qu'il a vécu dans sa propre vie, n'est-ce pas, il a vu de grandes choses de la part de Dieu. À partir de 1821, il va travailler pour l'avenir, pour ceux qui vont lui succéder. Il prépare les outils pour les générations futures, notamment dans le domaine linguistique. Il va écrire des grammaires ou rassembler des grammaires, des dictionnaires, des différents langages qui sont parlés en Inde et dans lesquels il conviendra ensuite de poursuivre le travail de traduction de la Bible. Et en même temps, des conseils aux jeunes pour l'évangélisation, pour les écoles qu'il a fondées, etc. En fait, ce qu'il cherche, c'est affirmer le travail avant son départ. Il meurt en 1824, à l'âge de 73 ans, là-bas, donc en Inde. Pendant que nous parlons des missions, il nous faut aussi parler des conséquences du réveil de Nouvelle-Angleterre, qui avait, comme nous l'avons vu, eu comme principal leader Jonathan Edwards, 1703-1758. Nous en avons déjà parlé, je n'y reviens pas, n'est-ce pas? Et au cours de laquelle il y a eu près de 400 000 convertis. Mais le réveil de Nouvelle-Angleterre a redonné un nouvel élan, même si Jonathan Edwards lui-même n'avait pas la vision missionnaire, nous l'avons vu, et c'était un point faible dans sa vision, n'est-ce pas? Bien qu'il exhortait les gens à soutenir l'œuvre missionnaire, mais lui-même n'a jamais entrepris d'œuvre missionnaire, ni le mouvement qu'il a créé. Par contre, sorti de ce mouvement du réveil de Nouvelle-Angleterre, il y a eu un renouveau d'intérêt aux États-Unis pour l'évangélisation des Indiens. Et en particulier, un certain Barend a pris la tête de cette évangélisation des Indiens. C'était un enfant très précoce qui s'est converti à l'âge de 17 ans. Il est devenu pasteur à l'âge de 19 ans. Et en 1848, il a commencé donc cette évangélisation des Indiens. C'était l'époque aussi où, malheureusement, après ce réveil de Nouvelle-Angleterre qui avait secoué donc le pays, l'Amérique était en train de connaître une période de régression spirituelle, un déclin spirituel. Elle était inondée de littérature plus ou moins pornographique. Ça commençait déjà à cette période-là. Et l'Amérique connaissait un déclin effrayant. Et le Seigneur permettra qu'à la fin du siècle, il y ait un nouveau réveil qui vienne redonner un nouveau souffle, n'est-ce pas, à ce pays. Et ce réveil va se poursuivre aussi au début du 19e siècle. C'est ce qu'on appelle le réveil du Kentucky. Réveil du Kentucky qui n'aura pas, à l'inverse des autres réveils, un grand leader, n'est-ce pas, pour le diriger, mais qui sera le fait simplement de petits groupuscules, de gens qui se rassemblent dans les maisons simplement pour prier, pour étudier la parole de Dieu. Et à partir de là, il y aura un renouveau qui va, en quelque sorte, ne pas être un grand bouleversement, mais petit à petit stabiliser cette espèce de déclin spirituel, et puis qui préparera les grands réveils, alors du 19e siècle aux États-Unis, les réveils de Finney, les réveils de Moody ensuite, dans la deuxième partie du siècle. Voilà, nous avons ici terminé l'étude du 18e siècle, et maintenant nous allons commencer l'étude du 19e siècle. Parler du 19e siècle, c'est parler d'un des siècles les plus fructueux de l'histoire de l'Église, pourrait-on dire. Le 19e siècle a été un des grands siècles de l'histoire de l'Église, une grande période de splendeur, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Église. D'abord par deux aspects. Le premier, celui des réveils. Le mouvement des réveils avait déjà marqué le siècle précédent, nous l'avons vu, avec le réveil piétiste et puis le réveil wesleyen, les réveils aux États-Unis, le réveil de Nouvelle-Angleterre, le réveil du Kentucky, etc. Donc, il y avait déjà eu des préparations. Mais les réveils qui vont marquer le 19e vont aller infiniment plus loin que ceux qui avaient marqué le siècle précédent. Et c'est pratiquement le monde chrétien tout entier qui va être touché par ces réveils, y compris les pays francophones, comme nous aurons l'occasion de le voir, à leur petite échelle, bien sûr. Et puis, surtout, n'est-ce pas, le 19e siècle va être le siècle de démission. À la fin du 18e siècle, la mission, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit protestante, était plutôt en perte de vitesse. Nous avons vu que les problèmes qui avaient surgi au sein de l'Église catholique, par exemple avec les jésuites, avaient fait qu'il y avait eu un coup d'arrêt certain qui avait été donné à l'élan missionnaire catholique. Le 19e siècle va voir, aussi bien dans le domaine, dans le catholicisme que dans le protestantisme, un nouvel élan missionnaire qui va amener l'Évangile aux extrémités de la terre. Finalement, à la fin du XVIIIe siècle, le christianisme restait essentiellement une religion européenne. Mais l'essentiel du monde n'avait pas été véritablement évangélisé. La grande commission de Jésus, aller aux extrémités de la terre et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'avait pas véritablement été obéi. N'est-ce pas ? Et nous avons vu que c'est William Carey, en fin de compte, qui va à nouveau attirer l'attention du monde protestant en particulier sur cette grande commission de Jésus. Et William Carey va donner le point de départ de ce grand élan missionnaire dans lequel d'autres vont s'engager à fond. Aussi bien d'ailleurs, comme je disais il y a un instant, dans le catholicisme. Et en l'espace d'un siècle, eh bien, le monde entier va être évangélisé. Et il ne restera, au début du XXe siècle, finalement, que très peu d'endroits qui n'auront pas véritablement été évangélisés. Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur ce grand élan missionnaire qui coïncide d'ailleurs, n'est-ce pas, et ça c'est un petit peu obligatoire, n'est-ce pas, avec une redécouverte par l'Occident, n'est-ce pas, de ce que l'on appelle le tiers-monde, et puis aussi, n'est-ce pas, de l'élan de colonisation qui va le marquer. On reprochera parfois, n'est-ce pas, à la mission chrétienne d'avoir accompagné, voire soutenu, n'est-ce pas, le colonialisme occidental. Les choses sont plus complexes que ça, en fin de compte, n'est-ce pas, mais il faut remarquer qu'effectivement, les deux mouvements coïncident quand même. Alors, nous aurons l'occasion de revenir sur ce grand élan missionnaire, et le grand élan missionnaire du XIXe siècle formera une partie importante de notre étude, mais pour l'heure, parlons des réveils. Il nous faut parler d'un premier réveil qui a été à la charnière entre les deux siècles, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est le réveil d'Oberlin. Oberlin, ses dates, 1740-1826, donc il est pratiquement contemporain de William Carey. Finalement, ce sont deux hommes de transition. William Carey était une transition sur le plan missionnaire et Oberlin était une transition sur le plan des réveils. Oberlin était un piétiste. Il avait été marqué par le piétisme dans la région d'Alsace, à cheval entre la France et l'Allemagne. Il est né à Strasbourg le 31 août 1740 d'une famille de 9 enfants. Son père était professeur au lycée protestant de Strasbourg et il a donné à son fils une solide formation universitaire, y compris dans le domaine de la médecine. Les parents d'Oberlin étaient déjà fortement marqués par le réveil morave et en plus, n'est-ce pas, la famille Oberlin avait aussi subi l'influence du méthodisme wesleyen. Et c'est ainsi que le jeune Oberlin a été très vite amené à se tourner vers une piété profonde, n'est-ce pas ? Très jeune, il a été placé par son père chez un chirurgien qui lui a appris trois choses, la chirurgie, bien sûr, la médecine, et puis aussi la théologie. Le chirurgien en question était aussi théologien, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que le jeune Oberlin a acquis, n'est-ce pas, ces trois disciplines qui vont lui être très utiles ensuite dans le reste de son ministère. En 1767, le pasteur d'un village proche de Strasbourg, qui s'appelait le Banc de la Roche, prenait sa retraite et cherchait un jeune pasteur pour le remplacer. Oberlin avait terminé sa formation chez ce chirurgien en question, et le vieux pasteur lui a proposé de le remplacer comme pasteur du banc de la Roche. Et c'est ainsi que Oberlin est d'abord venu pour faire un stage qui était éventuellement reconductible dans ce petit village du banc de la Roche. C'était un village où la situation n'était pas brillante, et ce qui a frappé le jeune Oberlin, c'est l'état de pauvreté de ses paroissiens. Et très vite, Oberlin s'est rendu compte que cette pauvreté n'était pas simplement dû aux conditions naturelles. Finalement, le pays était assez riche, mais finalement, au fait que l'agriculture était extrêmement rudimentaire, et il a pensé qu'il y avait moyen de développer, n'est-ce pas, l'agriculture et de rendre ainsi les villageois plus riches et leur rendre la vie plus aisée. Et avant toute chose, n'est-ce pas, tout en bien entendu assurant les cultes et réunions, Oberlin s'est mis à rassembler ses paroissiens pour leur enseigner les rudiments de l'agriculture moderne, entre guillemets, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec des techniques un petit peu plus élaborées, en tout cas, que ce qu'ils employaient. Alors, bon, ça n'a pas tellement marché, parce que finalement, les paysans du banc de la Roche se demandaient qu'est-ce que ce pasteur, qui en principe ne connaissait rien à l'agriculture, avait à leur enseigner là-dessus. Ils avaient leurs méthodes ancestrales, traditionnelles, et les agriculteurs, les paysans, c'est très difficile de les faire sortir d'un conservatisme un peu étroit, n'est-ce pas ? Et Oberlin a dû pédaler beaucoup pour pouvoir ainsi changer ses habitudes ancestrales. Mais Oberlin n'était pas à court d'imagination, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et finalement, il a essayé de stimuler, n'est-ce pas, en quelque sorte, la compétitivité de ces gens. Il prêchait d'abord sur ces choses-là, disant que le Seigneur aimait ceux qui étaient travailleurs, ceux qui étaient débrouillards, ceux qui étaient prêts à foncer, etc. Et il insistait là-dessus dans ses prédications. Donc il y a eu d'abord tout un travail pédagogique pour essayer de changer la mentalité en profondeur, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, il a même imaginé des petits subterfuges. Par exemple, il organisait de temps en temps le concours du plus beau taureau. Alors, évidemment, il y avait une cérémonie, celui qui avait le plus beau taureau recevait un prix solennel, il était mis à l'honneur, etc. Ça flattait l'esprit d'émulation des paysans entre eux. Et c'est ainsi que petit à petit, au banc de la Roche, les choses ont commencé à bouger. Il y avait aussi un point qui a beaucoup choqué Oberlin quand il est arrivé au banc de la Roche, c'était la manière dont justement les paysans traitaient les animaux, la cruauté contre les animaux, et il s'est mis à vitupérer en chair, n'est-ce pas, contre les mauvais traitements des animaux, disant aussi que le Seigneur demandait qu'on respecte ces créatures qui étaient aussi des créatures de Dieu. Et petit à petit, les choses ont changé. Puis en même temps, n'est-ce pas, il s'est rendu compte que les conditions d'hygiène étaient lamentables, notamment, n'est-ce pas, au niveau des animaux. Et il a commencé une action pour amener plus d'hygiène dans les étables, dans les élevages, etc. Et lui-même a entrepris une action vétérinaire. La médecine qu'il avait apprise avec son patron chirurgien, eh bien, il l'a mis au service de la médecine vétérinaire. Il s'est reconverti dans la médecine vétérinaire. C'était vraiment un pasteur à tout faire, n'est-ce pas ? Il allait aussi bien la nuit pour aider une vache à veler que pour aller prier pour quelqu'un qui était malade, etc., et puis éventuellement le soigner aussi. Et puis, il a entrepris tout un grand effort de reboisement dans toute cette région du banc de la Roche, avec ses catéchumènes. Les catéchumènes avaient charge, n'est-ce pas, pendant les jours de vacances ou autres, n'est-ce pas, ils partaient pour planter des arbres, et aussi, n'est-ce pas, pour planter des pommes de terre. En s'en arrivant dans le banc de la Roche, la pomme de terre était encore quelque chose de rare. Vous savez que la pomme de terre a été introduite à cette période-là en France, venant des États-Unis, et c'est l'introduction de la culture de la pomme de terre à grande échelle qui a permis de mettre fin aux famines endémiques qui ravageaient l'Europe occidentale. Nous avons vu comment déjà le pasteur Jarousseau avait introduit la culture de la pomme de terre en Charente-Maritime. Eh bien, Oberlin a fait la même chose en Alsace. C'est très intéressant de voir que les pasteurs protestants ont été les promoteurs de la culture de la pomme de terre parce qu'ils avaient compris très vite, n'est-ce pas, l'intérêt que présentait cette culture justement pour être en quelque sorte la nourriture des pauvres. Et dans un premier temps, la pomme de terre était vraiment la nourriture des pauvres. Alors c'est pareil, au banc de la Roche, les gens, voyant cette nouvelle production, étaient plus ou moins réservés, n'est-ce pas, qu'est-ce que c'est que ça, ils n'aimaient pas manger, etc. Et puis finalement, Oberlin a fait la preuve que d'abord la terre de l'endroit était tout à fait propice à ce genre de culture, et puis que finalement c'était très bon. Il a enseigné aux gens à comment préparer la pomme de terre, faire des recettes différentes à base de pommes de terre, et puis finalement il a convaincu son monde, et c'est ainsi que les gens ont commencé à manger des pommes de terre en Alsace, grâce à Oberlin, n'est-ce pas? Oberlin aussi, pour révolutionner cette agriculture qui était vraiment dans un état assez lamentable, a voulu développer l'entraide. Et il a créé une espèce de coopérative avant la lettre, et notamment, n'est-ce pas, un dépôt d'outils, et d'outils agricoles et de produits agricoles qui étaient alimentés par une petite contribution que les paysans s'imposaient. Et puis ensuite, n'est-ce pas, quand on a emprunté cet outil, on payait une petite redevance pour l'amortissement du matériel, pour la réparation, pour l'entretien, pour le rachat ensuite quand quand c'était usé. Ils vendaient aussi des socs de charrue, des semences qu'il achetait à bas prix. Il essayait d'avoir les prix les meilleurs, à battant les environs, n'est-ce pas? Et ensuite, même il avançait à crédit, si quelqu'un n'avait pas d'argent, il avançait à crédit, n'est-ce pas, le prix à la fois du matériel agricole et des semences. Et c'est ainsi que, petit à petit, l'agriculture a commencé à se développer dans sa région. Oberlin prenait une grande simplicité de vie. Il faut dire qu'il y avait chez lui un petit peu l'influence de Rousseau et du romantisme. Oberlin n'était pas du tout rousseauiste, bien sûr, mais enfin, le rousseauisme était un peu dans l'air du temps, n'est-ce pas? Et finalement, cette idée, n'est-ce pas, de l'importance de la nature, d'une vie simple dans la nature, c'était quelque chose qui venait de Rousseau, hein. De la Bible aussi, bien sûr, mais un peu de Rousseau. Et Oberlin était très, très acquis à ce genre d'idées, d'où son intérêt, justement, pour l'agriculture. En quelques années, il a réussi à complètement transformer la région du Banc de la Roche, qui s'est développée jusqu'à nos jours, n'est-ce pas, grâce à Oberlin. Et Oberlin est dans toute cette région encore le grand personnage de la région, pour tous, qu'ils soient protestants ou non. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'Oberlin n'était pas un homme du tout sectaire. En Alsace, à cette époque-là, c'est pas catholique et protestant, étaient à peu près à 50%. Et Oberlin avait des contacts très, très fraternels avec les catholiques, même avec un certain nombre de prêtres, du moins ceux qui acceptaient d'avoir contact avec lui. C'était un homme très ouvert. Et très vite, n'est-ce pas, la réussite qui a été la sienne au banc de la Roche a été connue un peu dans toute l'Alsace. Et Oberlin a été, on venait pour voir, pour copier ce qu'il faisait, etc. Quand il a eu relevé l'agriculture locale, Oberlin s'est attaché à un autre point, refaire le réseau des routes. Les réseaux de routes dans la région étaient absolument dans un état lamentable. Les autorités ne faisaient rien jusqu'en 1823, n'est-ce pas? Il n'y aura aucun effort des autorités pour refaire les routes. Et Oberlin a décidé de prendre le taureau par les cornes, puisque ça nuisait à l'économie du pays, parce qu'il n'y avait pas de relation facile ni possible, n'est-ce pas? Alors, il a engagé ses paroissiens à se retrousser les manches et à se mettre à réempirer les routes, n'est-ce pas? Ce qui a été fait, ces paroissiens qui au début étaient très réticents même à introduire de petits changements ont tellement été enthousiasmés par les résultats concrets que l'œuvre d'Oberlin avait entraîné ce monde d'agriculture qu'ils n'ont pas lésiné, n'est-ce pas, à ce travail pénible qui était celui de mettre les routes en état. Ah, Oberlin n'a pas oublié non plus les femmes. Les femmes qui étaient souvent aussi assez arriérées, n'est-ce pas? Et il a essayé de développer des emplois pour les femmes, notamment dans des travaux d'aiguille, des textiles, travaux de textile à domicile. Les femmes n'avaient pas besoin de bouger de chez elles. Elles pouvaient faire du tissage, du filage, etc. à domicile. Et puis alors, évidemment, il s'est attaqué aussi à la médecine préventive qui était totalement inexistante à cette période-là. C'est lui qui a, en quelque sorte, eu déjà la vision de la médecine préventive, enseignant aux hommes et aux femmes l'hygiène, comment se laver, par exemple, mettre les toilettes à certaines distances des habitations, et pas comme c'était autrefois, etc. Et il s'est mis à pratiquer la médecine, parce qu'il n'y avait pas de médecin non plus dans les environs. Pour ce faire, il a créé une pharmacie. Il a créé tout un ensemble aussi de toute une pharmacopée à base de plantes médicinales. Il a fait beaucoup de recherches dans le domaine des plantes médicinales parce que l'essentiel de la pharmacopée de l'époque d'ailleurs était à base de ces plantes-là. Et puis il s'est mis à pratiquer de la chirurgie orthopédique, ce qui lui avait été enseigné par son patron. Deux de ses enfants d'ailleurs plus tard deviendront médecins. Et puis un deviendra aussi pasteur. Donc il y aura l'exemple du père qui va se transmettre à ses enfants. C'est aussi l'époque où l'on découvre la vaccination antivariolique. La variole était une maladie terrible à cette époque-là qui faisait des ravages épouvantables. Et pour cette raison, donc, on avait fait des recherches sur cette question de la variole. Et la première vaccination, le principe de la vaccination, a été découvert justement à partir du virus de la variole. Oberlin a tout de suite vu l'intérêt qu'il pourrait y avoir dans ce genre de vaccination. Et il a donc encourager ses paroissiens à se faire vacciner systématiquement. Toute la population, n'est-ce pas, a été invitée à se faire vacciner, en sorte que la région du banc de la Roche a été la première région de France d'où l'épidémie de la variole a été complètement éradiquée. En 1885, il crée même une caisse de crédit locale, c'est-à-dire une espèce de banque. C'est intéressant aussi de noter que ces réalisations étaient aussi basées sur une grande moralité de ses paroissiens. C'est parce qu'ils pouvaient avoir une confiance en eux, n'est-ce pas, qu'il a pu aboutir à des réalisations de ce type-là. Par exemple, on a des sermons d'Oberlin dans lesquels il insiste sur la grande honnêteté qu'il faut avoir en affaires, notamment dans le remboursement des dettes. N'ayez pas de dettes, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Les dettes doivent être remboursées jusqu'au dernier sou. C'était l'enseignement d'Oberlin. Et Oberlin, non seulement prêchait dans ce domaine-là, mais il veillait lui-même à ce que, précisément, ceux qui avaient contracté des dettes, si minimes soient-elles, finalement, les remboursent. Il a rétabli l'usage de la dîme, et cette dîme, il l'a divisée en trois, n'est-ce pas ? Une partie pour l'Église, une partie pour l'entretien des routes et le remplissement des chemins, et puis une partie pour les pauvres. Et sa réussite sera-t-elle dans ce domaine-là, n'est-ce pas, qu'à la fin de sa vie, on viendra de toute l'Europe pour voir les réalisations effectuées par Oberlin au banc de la Roche. Oberlin s'occupe aussi de politique locale, c'est un homme véritablement universel. D'école, il crée des écoles pour les enfants. C'est à la fois un homme qui est extrêmement réaliste et puis en même temps aussi extrêmement mystique. Nous verrons tout à l'heure aussi son action dans le domaine spirituel. Et c'est ainsi qu'il va créer dès 1769 des écoles, notamment les écoles maternelles. C'est lui qui crée les écoles maternelles, n'est-ce pas ? L'école maternelle est une invention protestante. Ça, c'est une chose qu'il faut dire. C'est Oberlin qui en est l'auteur. Ça paraît tout simple aujourd'hui, tout évident, tout banal de parler d'école maternelle, mais il faut se souvenir qu'il y a deux siècles, ce n'était pas du tout aussi évident que ça. Et c'est Oberlin qui en a eu l'idée géniale. Il a été copié par les frères des écoles catholiques, mais c'est lui qui en a été néanmoins le promoteur. Il a rendu aussi l'école obligatoire, ce qui n'était pas jusque maintenant. Et puis, il crée aussi un enseignement musical dans les écoles. C'est le premier qui introduit l'enseignement de la musique dans les écoles. Aussi, l'enseignement musical, on le doit aux protestants, n'est-ce pas ? À Vianne. C'est une chose intéressante aussi de le noter. Et puis enfin, en 1783, il crée un almanach annuel, c'est-à-dire l'ancêtre du calendrier, pour que les gens sachent les fêtes, le temps aussi pour semer, pour moissonner, etc. etc. Il y avait tout était indiqué là-dedans. Il est évident qu'un ministère de ce type-là devait provoquer obligatoirement des réactions. Et les tribulations ne seront pas épargnées à Oberlin. Notamment, tout au long de sa vie, Oberlin sera l'objet de très très nombreuses calomnies. Une des plus méchantes qui lui sera attribuée, c'est d'avoir des maîtresses. En effet, Oberlin perdra sa femme assez rapidement. qu'il restera célibataire, il restera fidèle à la mémoire de sa femme sans jamais se remarier, alors qu'il était encore relativement jeune quand il a perdu sa femme et qu'il a eu de nombreuses occasions de se remarier, mais il a toujours refusé de se remarier. Et alors, on l'accuse, n'est-ce pas, on l'accuse d'inconduite, n'est-ce pas, sans jamais, bien entendu, avoir jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Mais ces calomnies viennent essentiellement des cas Barthier. En effet, n'est-ce pas, Oberlin lutte contre toutes les formes de fléaux, et un des fléaux aussi auxquels ces paroissiens se trouvent être confrontés, c'est le fléau d'alcoolisme. Et Oberlin tonne en chair contre l'alcoolisme, l'abus d'alcool, etc., etc. Tant et si bien que les lieux de boissons vont dépérir et les cabaretiers qui faisaient fortune sur la fortune de leurs malheureux compatriotes vont au contraire repéricliter sur le plan économique. Alors évidemment, ça ne fait pas tellement leur affaire et c'est eux qui vont donc dénoncer Oberlin auprès des autorités ecclésiastiques dont il dépend en disant que c'est un homme immoral qui vit une vie déréglée. Il est convoqué donc devant le consistoire pour répondre de ces calomnies-là. Il y a aussi une autre calomnie qui lui est imputée, n'est-ce pas, qui est celui de sa position sur les peines éternelles. En effet, il faut dire que là, la position d'Oberlin dans ce domaine n'est pas très claire. Oberlin commencera par affirmer la réalité des peines éternelles, puis effectivement, à certains moments de son ministère, il paraîtra fluctuer dans ce domaine-là, et finalement, il a une position qui est proche un peu, n'est-ce pas, de la doctrine du rétablissement dernier, n'est-ce pas, au cours duquel, finalement, après un temps de purification en enfer, eh bien, les damnés finiront par être réconciliés avec Dieu et sauvés. Alors évidemment, ça lui vaut des très très graves ennuis avec le consistoire de Strasbourg dont il dépend, n'est-ce pas, et Oberlin aura bien du mal à se dépêtrer justement de ces accusations qui, il faut bien le dire, n'est-ce pas, ne sont pas sans fondement en ce qui concerne ce point. C'est un point faible effectivement dans la théologie d'Oberlin. Puis on lui reproche sa gestion financière, on lui reproche de se mettre dans la poche un certain nombre de sommes dans les coopératives, dans la banque, etc., etc. Bref, il a affaire ici à de la malveillance. Il y a aussi une évolution dans le ministère spirituel d'Oberlin. Entre 1767 et 1778, c'est-à-dire environ 10 ans, l'essentiel de la théologie d'Oberlin est marqué par le piétisme et par le méthodisme. Et à l'exemple de Zinzendorf et de Wesley, Oberlin prêche la conversion, la repentance et des appels à la repentance. Il n'y a pratiquement pas une prédication d'Oberlin qui date de cette période-là qui ne se termine sans un appel à la conversion, à la repentance. Voici par exemple un extrait d'un sermon d'Oberlin. « Chers amis, quiconque aime le Seigneur Jésus-Christ, or je le pense que chacun d'entre vous souhaiterait de parvenir à l'aimer, quiconque donc est dans ses sentiments se plaira donc à lui faire plaisir. Or, on lui fait un plaisir singulier par de bonnes œuvres. Pour faire de bonnes œuvres, il ne faut pas justement de l'argent. Chaque œuvre pour le bien public et pour le soulagement des hommes et des bêtes, quand elle se fait surtout par l'amour pour lui, est une bonne œuvre qui réjouit son cœur. Telle est principalement la réparation et le bon entretien des chemins. » Voyez-vous, il n'a raté aucune occasion. Car les chemins tenus en bon état tendent d'abord à l'honneur de notre pays et religion, et par conséquent celui de notre Sauveur Jésus-Christ, que nous invoquons et dont nous nous invoquons vouloir être les imitateurs. Ensuite, ils réjouissent et soulagent tous les frères et sœurs en Jésus-Christ qui y passent. Et au dernier jour, le Seigneur dira à ceux qui, pour l'amour de lui, auront contribué au bon chemin, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, vous l'avez fait à moi. » Mais deuxièmement, nous faisons par là aussi du bien à nos adversaires, à ceux qui nous méprisent, ou chicanent, ou oppriment, ou qui nous font du tort. Mais si nous agissons ainsi envers nos adversaires, nous imitons l'exemple de Dieu, notre Père Céleste, et il nous regarde pour ses enfants. Enfin, troisièmement, nous soulageons les bêtes. Or, Dieu a beaucoup d'égards à ce qu'on fait aux bêtes. Encore une fois, son souci du bon traitement des animaux. Il nous le déclare en plusieurs endroits de sa sainte parole, et il dit en termes express que le juste a égard au soulagement et au bien-être des bêtes. Voyez combien de motifs doivent nous porter à nous appliquer avec joie et grand zèle à contribuer au bon entretien de tous les chemins. Chers amis, vous n'y avez sûrement pas réfléchi quand le 28 juillet, votre maire et ancien vous a commandé à la réparation d'un chemin et qu'en grande partie, vous avez refusé d'y aller, de telle sorte qu'il a manqué 35 ménages. Vous avez affligé par là, je parle à ceux qui ont manqué, bien sûr, vous avez affligé par là le cœur de notre Sauveur, qui souhaite que vous soyez zélés pour les bonnes œuvres et obéissants de bon cœur au supérieur et préposé qu'il vous a donné. Demandez-en donc pardon à votre Sauveur, suppliez-le de vous animer de son zèle pour tout ce qui peut lui faire plaisir, comme ses chers rachetés, son peuple particulier et chéri, et comme le troupeau de sa pâture et les membres de son corps. Voyez-vous que c'est une prédication un peu spéciale, mais il s'est terminé, il trouvait le moyen d'appeler les gens à la repentance. Bon. En 1782, il crée une société chrétienne qui se veut basée sur les principes de Zinzendorf, c'est-à-dire celui de l'ecclesiola in ecclesia. Et qui, précisément, est animée par la vision piétiste. N'est-ce pas? Chaque dimanche, après le culte, il tient une école du dimanche. Et puis le vendredi soir, il prêche au presbytère en allemand, puisque le peuple du banc de la Roche est bilingue. À partir de cette période-là, de 1778, alors c'est là que commencent les problèmes avec les peines éternelles. Oberlin commence à flotter dans ce domaine-là. Il commence à laisser entendre dans ses prédications qu'il y a un rétablissement final et un anéantissement des impies. Il commence aussi à prier pour les morts. Ça, c'est aussi douteux. Il y aurait d'ailleurs peut-être aussi, on l'a accusé, mais ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas vraiment de texte, certaines déviations mariales. Bon. Et alors, sa prédication change à partir de ce moment-là. Il n'a plus le même caractère incisif. Et petit à petit, Oberlin va s'éloigner du piétisme. Il reste pour lui-même un homme de foi, un homme de prière. C'est pas, il passe beaucoup de temps dans la prière. Et finalement, au bout de quelques années, n'étant plus tellement sûr de lui, eh bien, il demande à partir pour les États-Unis, comme pasteur pour les États-Unis. Finalement, il ne donnera pas suite à son projet, mais ça prouve que là, il y a un certain flottement en lui. Finalement, peut-être que son intérêt pour les choses de la terre a peut-être quand même été un peu disproportionné par rapport à ce qu'aurait dû être son ministère, c'est pas la dimension spirituelle. Oberlin aura 9 enfants. En 1770, sa femme meurt. Il a 49 ans quand elle meurt. Comme je disais tout à l'heure, il ne se remariera jamais. À partir de ce moment-là aussi, il va évoluer. Il va évoluer sur le plan mystique, dans un mysticisme, bon, qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours un mysticisme de bon aloi. Il recherche la révélation de Dieu, ce qui est une bonne chose. Mais parfois, n'est-ce pas, son intérêt pour le mysticisme est proche de l'occulte. Et il ne fait pas toujours la différence entre les révélations véritables, les rêves qu'il peut avoir, comme n'importe qui, et puis finalement les spéculations qui peuvent naître à partir de ces rêves. Il fait des spéculations, par exemple, sur l'avenir, dont beaucoup d'entre elles ne se réalisent pas, manifestant par là que ce n'est pas véritablement une dimension prophétique réelle. Dès le début de son action, Oberlin va avoir maille à partir aussi avec les autorités politiques, qui voient d'un mauvais œil ce pasteur qui est si entreprenant et qui commence à bouleverser les choses aussi dans tous ces domaines-là. Et notamment, il entre en conflit avec le prévôt de l'endroit, qui est lui-même protestant d'ailleurs, n'est-ce pas, et qui s'appelle Dietrich, et qui voit d'un très mauvais œil l'activité de ce pasteur. Oberlin s'ouvre à toutes les idées modernes, les idées du XVIIIe siècle, les idées des Lumières. Nous avons vu l'influence qu'avait Rousseau sur lui, n'est-ce pas? Mais, par exemple, les droits de l'homme, et quand éclate la Révolution, Oberlin va s'enthousiasmer pour la Révolution. Il faut dire d'ailleurs qu'il n'est pas le seul pasteur protestant à faire ça. Il accepte, n'est-ce pas, avec beaucoup de joie, le principe de la séparation de l'Église et de l'État, qui ne sera d'ailleurs, qui n'a toujours pas été implémenté dans cette région de France, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, c'est la terreur, bien entendu, et là, évidemment, les choses changent. Un de ses fils est mobilisé dans les armées françaises, il mourra sur le front. C'est un coup très dur pour Oberlin parce qu'il pensait que ce fils avait une vocation pour lui succéder, notamment, n'est-ce pas ? Et donc, lui-même va être inquiété, comme tous les pasteurs et prêtres, pendant la période de la Terreur. En novembre 1795, il est convoqué à Strasbourg devant le comité de salut public, n'est-ce pas ? Et il est sommé de démissionner de son poste de pasteur. Il refuse. Et par contre, il accepte de devenir ecclésiastique assermenté. Donc, il prête le fameux serment à la République que beaucoup de prêtres refusaient de faire. Le 30 décembre 1793, tous les services religieux sont supprimés sur tout le territoire de la France. Les églises sont réquisitionnées et deviennent des magasins. Qu'à cela ne tienne, Oberlin a trouvé la parade, il a réfléchi bien avant, il avait vu venir l'orage, il n'est pas pris par surprise comme beaucoup de pasteurs, mais il crée un club. C'est l'époque où on crée des clubs, n'est-ce pas ? Les clubs jacobins, les clubs la République, ben, il crée un club. Un club en principe politique, et ses discours politiques sont en fait des prédications. En fait, de discours politiques, il prêche. Il a trouvé le pied, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. En 1794, il tombe malade, et il est obligé de mettre un frein à ses activités, notamment, il est obligé d'abandonner entre les mains de l'État l'éducation, toutes les écoles qu'il a créées. C'est le plus dur pour lui. Ça, c'est une chose qu'il a du mal à accepter. Finalement, il fait une demande pour être agréé par le comité de salut public comme professeur, mais ça traîne, il y a des tracasseries, et en attendant, il a peu de moyens, peu de ressources, il vit extrêmement chichement et très pauvrement. Le 28 juillet 1794, il est arrêté. Il est arrêté, et finalement, il risque la guillotine. C'est la chute de Robespierre qui le sauve, justement, de la guillotine, comme tous ceux qui se trouvaient dans sa situation. Après la chute de Robespierre, Oberlin reste néanmoins républicain. Et le 22 janvier 1795, après donc l'instauration du directoire, il rouvre, avec l'autorisation du gouvernement, les écoles et le culte, n'est-ce pas, qui avait été interrompu. C'est l'époque où Oberlin se lie avec l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire était un prêtre d'Alsace-Lorraine aussi, n'est-ce pas, qui avait gagné un prix qui avait pour thème, n'est-ce pas, comment faire en sorte que les Juifs puissent être une race régénérée. Vous savez, c'était le problème de l'intégration des Juifs dans la société. L'abbé Grégoire était un homme qui était acquis aux idées de 89 et par conséquent qui se trouvait très proche d'Oberlin dans ce domaine-là. Oberlin, nous l'avons vu, était un homme très ouvert au catholicisme, n'est-ce pas ? Et il y a eu une collaboration très fructueuse entre l'abbé Grégoire et Oberlin en ce qui concerne aussi justement les Juifs. Et Oberlin était un homme aussi qui s'intéressait aux Juifs, nombreux en Alsace-Lorraine à cette période-là. En 1796, il doit prêter serment, comme tous les pasteurs, ceux qui sont officiels dans l'État, n'est-ce pas, de haïr la royauté et l'anarchie. Et finalement, on aboutit à la séparation de l'Église et de l'État, sous l'influence justement des idées de l'abbé Grégoire. Il y a donc un texte spécial qui est voté le 22 août 1795, qui s'appelle la Constitution civile du clergé, qui prévoit la séparation de l'Église et de l'État. Oberlin accueille ça avec beaucoup de joie, parce que c'était quelque chose qu'il préconisait depuis longtemps. Entre-temps, n'est-ce pas, le banc de la Roche était devenu une terre d'asile pour les familles fuyant la terreur, ce qui a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles Oberlin a été inquiété, entre autres choses, n'est-ce pas ? Après donc le directoire, succède le consulat, puis l'empire, et Oberlin devient bonapartiste. C'est vraiment un homme entier, n'est-ce pas ? Et pour lui, de républicain, il devient bonapartiste. Il est très hostile à l'Angleterre, puisque Bonaparte est hostile à l'Angleterre, et de ce fait, il devient un des amis du préfet qui a été nommé par Napoléon. En même temps, Oberlin est sensibilisé à un autre problème qui agite la société française à cette période-là, n'est-ce pas ? C'est celui de l'esclavage des Noirs. La France a dans ses colonies un certain nombre d'esclaves noirs, par exemple dans les Antilles, qui travaillent, n'est-ce pas, dans des conditions qui sont celles des Noirs des États-Unis. Et déjà, les philosophes du XVIIIe siècle s'étaient élevés contre cet esclavage des Noirs. Oberlin, lui aussi, est très anti-esclavagiste. Et pour manifester, pour prendre part à cette lutte pour l'abolition de l'esclavage, il refuse tout produit qui est fabriqué par des Noirs, n'est-ce pas ? Et finalement, Oberlin meurt en 1826. Après donc un ministère extrêmement fructueux pendant toute cette période, qui a été une période de transition, l'Ancien Régime, toute la période de la Révolution française, et puis toute la période, si vous voulez, du bonapartisme, de l'Empire, qui devait conduire à... et de la contre-révolution qui suit la chute de l'Empire, la chute de Bonaparte, n'est-ce pas ? Il a vécu toute cette période charnière, n'est-ce pas, de l'histoire de France, à cheval entre deux pays, n'est-ce pas, la France et l'Allemagne, de deux cultures, de visions différentes, si vous voulez, de la foi, à la fois piétisme et puis à la fois donc les idées nouvelles, n'est-ce pas ? Finalement, un personnage assez ambigu, sympathique par bien des aspects, et puis avec des failles dans d'autres domaines, n'est-ce pas ? Néanmoins, finalement, on peut dire que le positif l'emporte quand même sur le négatif, et notamment, Oberlin contribuera aussi à la diffusion de la parole de Dieu avec les sociétés bibliques. Bien qu'étant anti-anglais, n'est-ce pas, il va participer à la diffusion de la Bible, et notamment, il va distribuer des Bibles gratuitement, bien entendu, à tous ses paroissiens, y compris catholiques. Et pour les paroissiens, pour les catholiques de sa région, il va faire imprimer une version catholique de la Bible, la version de Le Maistre de Sacy. Et là aussi, Oberlin a été un pionnier dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres domaines. On l'a vu tout à l'heure dans le domaine des écoles maternelles, de bien d'autres choses, n'est-ce pas ? Il va être le premier qui va diffuser en langue vulgaire, avec l'appui du clergé catholique, ou du moins la cortacite, peut-être pas l'appui, mais en tout cas la cortacite du clergé catholique, des Bibles aux catholiques. N'est-ce pas ? C'est les catholiques du banc de la Roche sont les premiers catholiques français à avoir la Bible dans leur langue, à avoir la possibilité d'avoir une Bible chez eux. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra attendre notre siècle, n'est-ce pas, pour que ça se généralise, et encore d'une manière très, très, très timide encore aujourd'hui. Et dans ce domaine-là, Oberlin a été un pionnier de l'œcuménisme avant la lettre. Faut dire qu'en Alsace-Lorraine, les relations catholiques-protestants ont toujours été plus faciles qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Et les luthériens d'Alsace-Lorraine étaient libres, même sous Louis XIV, de pratiquer leur foi. Nous nous souvenons de ça, n'est-ce pas ? Alors que pendant le reste de la France était sous le régime de la révocation de l'édit de Nantes, l'Alsace-Lorraine conquise par Louis XIV avait l'exception. Et puis enfin, Oberlin aussi a protégé les Juifs, et dans ce domaine-là, il a été aussi un pionnier dans ce domaine-là. Voilà, si vous voulez, très rapidement, ce qu'on peut dire d'Oberlin. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?